Bonjour à tous. C'est encore avec joie que nous sommes réunis, que je suis réuni avec vous pour entendre la parole du Seigneur. Puisse-t-il m'aider à vous l'apporter, à vous la communiquer cet après-midi, pendant que vous cherchez dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, que vous ouvrez vos Bibles. Marc 12, verset 28. Ce chant que nous avons chanté nous dit que Dieu, le ciel, a ouvert ses fenêtres pour nous pardonner. Ces fenêtres, lorsqu'elles se sont ouvertes, ont laissé venir Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver, pour nous faire du bien. Tout ça par amour, parce que Dieu nous a tant aimés. Et la question cet après-midi, le frère nous l'a dit, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt, nous, à être enlevés par Jésus, puisque Jésus, la Bible nous dit qu'il va revenir à nouveau pour chercher ceux qui lui appartiennent? Et est-ce qu'on est prêt? Comment savoir si on est prêt? Eh bien, on va faire cette lecture. Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu l'aimeras. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Je veux m'arrêter là. Le premier des commandements, c'est-à-dire le plus important que Jésus a dit, a répondu à cet homme, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Comment savoir si je suis prêt pour le retour du Seigneur, si je suis prêt pour me présenter devant Dieu et rendre des comptes pour la vie qu'il m'a prêté? Comment savoir si je suis prêt? Eh bien, aimes-tu Dieu? Souvent, on pose cette question aux gens. Crois-tu en qui est Dieu? Crois-tu en Dieu? Les gens disent, oui, je crois qu'il y a un Dieu. Crois-tu, même on va un peu plus loin, crois-tu en Jésus? Oui, je crois que Jésus a existé. Crois-tu? Et on s'arrête là. Et les gens, s'ils répondent oui, ah bon, ben ça va, il est sauvé. On croit que pour être sauvé, il suffit de croire en Dieu. Seulement, dans Jacques, par exemple, dans la Bible, il nous est dit que les démons croient aussi et qu'ils tremblent. Pourtant, les démons, ils ne seront pas sauvés. Le diable, je suis sûr qu'il croit en Dieu et qu'il sait qui est Jésus. Mais il n'est pas sauvé et il ne sera pas. Quelle est la différence? La différence, c'est aimes-tu Dieu? Aimes-tu Jésus? Et vous allez me dire, mais comment aimer Dieu? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Pourquoi aimer Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Comment je peux aimer Dieu? Quelle motivation puis-je avoir de l'aimer? Comment ça se fait que quelqu'un puisse aimer Dieu? Qui est candidat pour avoir une vie remplie de joie? J'aimerais connaître les candidats au bonheur cet après-midi. Moi, je suis candidat. Qui est candidat pour avoir la paix dans sa vie? Le premier. Qui est candidat pour avoir une vie qui vaut la peine? On laisse tout de la main encore. Je vais arrêter parce que vous allez avoir mal au bras après. Hein? Mais vous êtes d'accord? Eh bien, cette vie-là, cette vie pleine de joie, pleine de bonheur, pleine d'amour, pleine de paix, s'appelle la vie éternelle. C'est une qualité de vie. Souvent, on croit que la vie éternelle, quand on lit la Bible, on peut dire la vie éternelle, c'est une vie pour plus tard. Une vie qui s'arrête pas, enfin, c'est quelque chose d'abstrait. Mais la vie éternelle, ça commence aujourd'hui. Pour ceux qui la désirent, ceux qui la veulent. Et c'est une qualité de vie, c'est celle pour laquelle vous avez levé la main. C'est ça, et ça s'appelle la vie éternelle. La parole de Dieu nous dit que la vie éternelle est réservée à ceux qui croient, c'est vrai, mais qui aiment Dieu, qui aiment Jésus. Alors, pourquoi aimer Dieu? Comment aimer Dieu? À cause de quoi l'aimer? Première raison que je voudrais noter cet après-midi, c'est qu'il nous a donné la vie. Il nous a prêté la vie, on l'a, et on en fait ce qu'on veut, on est libre. Est-ce que ce n'est pas une preuve d'amour que de laisser libre quelqu'un? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Si jamais je force quelqu'un à faire quelque chose, est-ce que je l'aime? Non. Le propre de l'amour, quand même, c'est d'avertir, mais pas de forcer. On avertit, on essaie de donner des bons conseils, mais on ne force pas, on garde une certaine liberté. Quelqu'un disait, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Je ne peux pas forcer les autres, je ne peux pas obliger, sinon c'est plus que j'aime. L'amour respecte l'autre. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il respecte aussi les hommes. Il les respecte, mais aussi, il a fait plus que de simplement donner la vie et laisser aussi le choix de la mener comme ils le veulent. Simplement, pour exposer aussi cette question, je voudrais juste noter, pourquoi moi, j'ai la vie? Alors tant de personnes, de bébés, d'enfants, n'arrivent pas à avoir une vie aussi longue que la mienne. Pourquoi moi, j'ai eu la vie? Certaines grossesses s'arrêtent en cours de route. Certaines personnes sont stériles, ne peuvent pas donner la vie. Pourquoi vous, vous êtes sur terre? Parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu a un plan pour vous. Parce qu'il voulait que vous soyez sur cette terre. Et je vais même plus loin, il voulait que vous soyez dans cet endroit, cet après-midi. Peut-être vous qui venez pour là ou l'une des premières fois. Ou peut-être vous qui venez et qui n'avez pas encore fait ce pas avec le Seigneur Jésus. Vous qui entendez depuis des années, mais qui n'avez pas encore accepté ce Sauveur et ce Seigneur merveilleux. Pourquoi vous? Parce que Dieu vous aime. Pourquoi l'aimer? Je viens de le dire. Parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. C'est pas Dieu, notre relation avec Dieu ne doit pas dépendre de notre amour, mais elle doit exister parce qu'il nous a aimés le premier. Et son amour, il l'a manifesté, et ça c'est la plus grande des raisons pour laquelle je peux aimer Dieu, c'est parce qu'il a envoyé son Fils sauver les hommes, et plus particulièrement me sauver moi de mon péché et de cet avenir que j'avais, qui était l'enfer, qui était la conséquence de ma désobéissance ou de mon péché. Pourquoi aimer Dieu? Parce qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix, payer ma dette à ma place. Payer ma dette, la dette de mon péché. Pourquoi aimer Dieu? Bien, lorsqu'on voit la Bible, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si je précise que croire, ça ne suffit pas, c'est parce que la vraie foi, cette vraie croyance qui sauve, c'est celle qui nous pousse à aimer Dieu, parce qu'elle nous ouvre les yeux sur ce qui s'est passé à la croix. Ce que je voudrais dire va un peu plus loin, et j'aimerais vous dire, oui, si pour être sauvé, il faut aimer Dieu, je crois qu'il y en a un qui cherche à nous mettre des bâtons dans les roues et à nous faire croire que ça ne sert à rien d'aller jusqu'à aimer Dieu, d'aller jusqu'à aimer Dieu pour ce qu'il a fait, envoyer son Fils, donner son Fils, son unique. Est-ce que vous auriez donné votre fils ou votre fille pour quelqu'un qui était inconnu et même peut-être quelqu'un qui était votre ennemi? Vous l'auriez donné, vous, votre enfant? Moi qui suis papa, je crois pas. Je suis même sûr que pas du tout. Mon enfant, c'est ce qui vient de moi, c'est mes entrailles. C'est ce que j'ai peut-être de plus important après ma vie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est celui que, Élie, mon fils, c'est celui que Dieu m'a confié pour l'éduquer aussi. J'ai une responsabilité en tant que parent. Et je ne crois pas que j'aurais osé, ou j'aurais aimé tant un inconnu, même un ennemi, au point de donner mon fils. Pourtant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, son unique. Est-ce que ça ne mérite pas qu'on l'aime en retour? Moi, je crois. Comme je l'ai dit, il y en a un, le diable, qui veut mettre des bâtons dans les roues, parce que le diable, un jour, a désobéi. Il s'est révolté contre Dieu. Et il a choisi son camp, il a choisi d'être l'ennemi de Dieu. Et en même temps qu'il a choisi d'être l'ennemi de Dieu, il a choisi d'être l'ennemi de toutes les créatures de Dieu. Toutes. Et il veut absolument que les hommes aussi aillent en enfer. Et il veut absolument qu'ils aillent avec lui en enfer. Alors il se bat, il se débat, il prend pas de vacances, même si nous on est dans un temps de vacances. Lui, il ne prend jamais de vacances pour faire perdre les hommes. Au contraire, lui, il est là, il s'emploie 24 heures sur 24 pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est là que je voudrais en venir. Il est là pour nous tenter. Il est appelé le tentateur, le séducteur, l'accusateur, celui qui est là pour nous écraser. Et j'aimerais relever quelque chose, peut-être que quelqu'un a commencé à s'approcher, a voulu s'approcher de Dieu, a compris que Jésus était mort à la croix pour ses péchés, que normalement c'était lui qui devait mourir à cause de ses péchés, comme la Bible le dit, mais que Jésus a fait ce qu'il fallait pour que nous on ait la vie, et il a voulu s'approcher de Dieu, mais il a commencé à avoir des difficultés, comme un désert, comme une guerre dans son cœur, des tentations, et il lui arrivait de tomber. J'aimerais vous dire que les tentations, déjà, être tenté, ce n'est pas un péché. On va le voir. Être tenté, ce n'est pas un péché. Et aussi, c'est normal de passer par des moments de désert. Quand on s'engage, quand on s'approche de Dieu, quand on cherche Dieu, il y en a un qui n'est pas content. Encore moins quand on s'engage avec Dieu. Il y en a un qui n'est pas du tout content. Le diable, au contraire, il va dire, mais il vient de s'engager, il est encore tout frais, tout jeune, je vais essayer de saper ce travail. Je vais essayer de le décourager. Peut-être ce message cet après-midi ne va pas convenir à quelqu'un qui viendrait pour la première fois. J'aimerais vous dire que Dieu vous aime. C'est le message le plus important que j'ai à cœur. Il vous aime tant qu'il a voulu payer la dette de votre péché. Il veut que vous soyez sauvés. Il vous veut avec vous, avec lui, pour l'éternité. Il vous suffit d'accepter ce que Jésus a fait à la croix. Il vous suffit d'ouvrir les yeux sur la croix et d'aimer Jésus simplement pour ce qu'il a fait, d'aimer son Père. Mais aussi, quelqu'un est peut-être découragé par des tentations, un fardeau qu'il a sur son cœur. J'aimerais vous dire, il y a quelqu'un qui a vécu la même chose et qui peut vous aider, Jésus lui-même. Jésus lui-même. On fait une deuxième lecture dans 1 Jean au chapitre 2, au verset 15. Le diable, comme je l'ai dit, il essaie de mettre des bâtons dans les roues, de nous empêcher de nous embêter, et il va s'employer à nous tenter de toutes sortes de façons. Il va nous tenter sur trois domaines. Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Et j'aimerais relever ceci, c'est que le diable va essayer dans le monde, par les moyens du monde, de nous tenter par trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On va voir ce que c'est. C'est exactement ce qu'il a fait depuis le début. Vous savez qu'il y a des années, dans les arènes, lorsqu'il y avait les coureurs là, vous, qui a vu Ben-Hur avec les chars, ouais. Et aussi il y avait pareil, mais à la course, on courait. Et autrefois dans les tribunes, il y avait comme aujourd'hui peut-être des paris, des choses comme ça. Et pour déstabiliser les coureurs, les gens, les personnes, ils étaient là, ils jetaient des billes en or sur le terrain. Et les coureurs, lorsqu'ils voyaient des billes en or, ils étaient détournés, ils allaient vers la bille en or. Ils étaient distraits du but. Et il perdait du temps à ramasser les billes en or. Et il continuait. C'est exactement ce que le diable, il veut continuer à faire. Il veut que les hommes soient détournés de l'important. Aimer Dieu au point de garder ses commandements. Au point d'écouter sa parole. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Aimer Dieu au point de faire la volonté de Dieu. Les hommes ne se soucient pas de la volonté de Dieu, mais cherchent à assouvir leur appétit, leurs différents appétits, leurs différentes convoitises. Et on voit que c'est ce que le diable a fait depuis le début, Adam et Ève. Hein. Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a parlé du fruit, déjà il a mis en doute la parole de Dieu, a-t-il réellement dit? Et ils ont dit quoi? Que le fruit avait l'air d'être bon à manger, agréable à la vue, et qui donnait du discernement. Et on va voir qu'il est parlé de l'appétit de la chair, convoitise de la chair, convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. Mais Jésus lui aussi lui-même, et j'aimerais prendre le meilleur des exemples qui soit dans la parole de Dieu et même de toute la terre, c'est Jésus dans Luc 4, on voit que lui aussi il a été tenté sur ces trois domaines. Luc 4 chapitre 1. Jésus vient de passer par cet événement qui est le baptême, il est baptisé, ce symbole d'un engagement avec Dieu. Jésus vient de le faire et il nous est dit que Jésus, verset 1, chapitre 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je le veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit,
Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit « Il est dit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. »
Amen. On voit que Jésus a été tenté. C'est encore la preuve que la tentation n'est pas un péché, puisque Jésus n'a jamais péché. Et sur trois choses, le diable a cherché de le tenter. Jésus n'a pas tombé, n'a pas péché. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a jamais convoité. Jésus n'a jamais convoité. Seulement, il l'a tenté sur trois domaines. La chair, on l'a vu. Première chose, on le voit, il lui dit « Ouh !» Il nous est dit que Jésus eut faim. Normal. Après 40 jours de jeûne, qui n'a pas faim ? Il eut faim. Il a faim. Et le diable vient l'attaquer un peu, le tenter sur ce domaine. Et lui dit « Voilà, si tu es le Fils de Dieu, puisque juste avant, Dieu dit « Voici mon Fils ». Celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu rend témoignage. Mais le diable, il vient attaquer, il vient dire, es-tu vraiment le fils de Dieu ? Mettre le doute, mettre en cause la parole de Dieu. Peut-être que c'est ce que le diable fait avec vous. Il vous dit, mais est-ce que tu es vraiment chrétien ? Est-ce que tu crois que tu es vraiment sauvé ? Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu ? Ou tu vois un peu ses défauts là dans ta vie ? Vous ne pouvez pas le faire avec Jésus, mais il pourrait le faire avec nous, je pense. Tu vois ses défauts ? Tu vois encore ces choses qui sont là. Est-ce que tu es vraiment un enfant de Dieu ? Est-ce que tu es vraiment sauvé ? Tu crois ? Tu crois ? Et il vient attaquer sur ce domaine et il lui dit aussi, change, si tu es le fils de Dieu, change ces pierres en pain. Oh, le confort du ventre. Quand on a tout ce qu'il nous faut, nous qui sommes dans un pays où il y a quand même ce qu'il nous faut pour manger, normalement, et si on en manque, il y a quand même certaines aides. Dans certains pays, il n'y a pas. J'apprenais dernièrement qu'il y avait des milliers, encore aujourd'hui, des milliers, je ne sais plus si ce n'est pas des millions d'enfants qui meurent de faim aujourd'hui, ou de soif. Et nous, on a ce qu'il faut, et ça ne nous suffit toujours pas. Le confort. Confort. Ah, quelqu'un pourrait dire, les chaises, elles ne sont pas assez confortables. Il nous en faudrait avec de la mousse. C'est vrai, non mais, c'est pas vrai. Quelqu'un pourrait dire encore, oh, les allées, elles sont trop étroites, il faudrait élargir. Ou alors, le local n'est pas bien, la couleur ne nous me convient pas, ça ne me va pas, je voudrais encore autre chose. On n'est jamais satisfait. Et le diable, il s'amuse à nous distraire de l'essentiel, de nous tourner vers Dieu, apprendre à le connaître, savoir ce qu'il a fait pour nous, pour l'aimer, pour être sauvé. Et il nous dit, oh, cherche d'abord ton confort. Hein. Quand tu te sentiras bien, enfin, tu te poseras ces questions-là. Mon père disait, moi, quand je n'étais pas converti, je croyais que l'évangile, les choses de Dieu, c'était soit pour les petits-enfants, des bonnes histoires, des fables, ou pour les vieilles mamies. Hein. Les deux extrêmes, mais pour moi, ce n'était pas le cas. Oui, le confort, quand on cherche notre confort, notre chair, à satisfaire notre chair. Ah, moi, j'ai besoin de ça pour être heureux. J'ai besoin de ça pour être heureux. Dernièrement, j'entendais cette réflexion, et moi, quand je serai mariée, je serai enfin heureuse. Ou enfin heureux. Et je pense qu'il faut se marier parce qu'on est heureux. Et pas pour être heureux. Parce que si on se marie sans être heureux, j'ai peur qu'on soit déçu. On se marie parce qu'on est heureux et qu'on se sent apte à rendre heureux quelqu'un. Parce que le mariage, c'est beaucoup se donner. Se donner à l'autre. Parce que même quand quelqu'un se donne pour nous, des fois on ne le voit pas. C'est pas vrai. L'autre, il se démène. Et on ne voit pas. Alors, il faut comprendre que de toute manière, il vaut mieux se donner sans attendre en retour. Comme ça, tout ce qu'on reçoit, ben c'est de la joie, c'est super. Et il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, la Bible nous enseigne. C'est pas vrai ? C'est ça le mariage, se donner. Je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Il y en a qui sont jeunes mariés, là. Kerry et Joël. Hein ? Eh oui, c'est ça. Je ne me marie pas pour être heureux. Je me marie parce que je suis heureux. Et souvent, on attend un plus. Il me manque ça, il me manque ça. Il nous manque beaucoup de choses. Et ça, j'aimerais vous dire que ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. La parole de Dieu dit, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, tout le reste, le manger et le boire, Dieu, il y pourvoira. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Ceux qui l'ont vécu, qui ont fait le test, ils peuvent dire amen. Ouais, vous le croyez, c'est vrai, non? Moi, je l'ai vécu. Et je peux dire merci, Seigneur. Je l'ai vécu. Oui, quand on cherche le confort, des fois, il a l'air justifié. J'aimerais vous dire, c'est pas l'essentiel. C'est pas le plus important. Deuxième chose sur laquelle le diable va essayer de nous détourner et nous faire perdre du temps, ce temps si précieux que Dieu nous donne, il dit de racheter le temps dans sa parole, c'est la convoitise des yeux. Ah, ce qu'on voit. On voit que le diable, il met Jésus en haut là, hein, on le relit, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Ouais, Jésus, il prend Jésus, il lui montre tout ce qu'il a là, tous les royaumes, et il dit, voilà, tu vois, j'aime bien le fait qu'il dit, il lui montra tous ces royaumes. Il lui a pas seulement dit, il lui a montré, tu vois, toute cette puissance, toutes ces choses, c'est déjà pas mal, hein. Je te le donne si tu te prosternes et si tu m'adores. Combien de fois le diable essaie de nous accrocher en disant, ouais, si tu prends plus de temps, si tu n'écoutes pas là toutes ces choses avec de Dieu, etc., si tu ne lis pas trop ta Bible, si tu prends plus de temps pour t'investir dans tes études, tu auras une bonne place. Vous savez, l'orgueil de la place, quand on vous propose une grande place, mais bon, faut être un peu voyou. Moi, quand j'ai cherché un travail, à un moment, on m'a proposé commercial. Et j'étais content, je vais à l'entretien d'embauche, et je dis, ah, commercial. Et puis, au monsieur, je lui dis, voilà, moi, je suis prêt à m'investir, je suis prêt vraiment à m'investir dans le travail, à faire ce qu'il faut pour faire avancer la boîte, comme on dit. Je suis prêt à m'investir, à travailler dur, etc. Et voilà, je dis, je suis quelqu'un d'honnête. Je lui ai dit, voilà, moi, j'ai certains principes, voilà, je suis honnête, etc. C'est pas ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, ben moi, tu sais, mon jeune, j'étais encore plus jeune, et il me dit, tu sais, moi, quand je suis allé à mon premier entretien d'embauche, j'ai rencontré telle personne de telle grande marque, et c'était pour être commercial, et il m'a mis une boîte d'allumettes devant moi, et il m'a dit, voilà, vendez-moi cette boîte d'allumettes. Bon, moi, je l'écoutais. Et j'ai réfléchi, il me répond, il me dit ça, j'ai réfléchi, et puis je lui ai répondu, écoutez, moi, je ne suis pas là pour vendre des boîtes d'allumettes, excusez-moi, ce travail n'est pas pour moi. Et il est parti. Et il me dit, tu vois, cet homme, il m'a rappelé. Et il a vu que je n'étais pas quelqu'un de doux et que j'étais prêt à dire ce que je pensais. Et que j'étais même quelqu'un qui était prêt à pas être tendre et à pas faire tout à fait ce qu'il faut, ce qui est convenable pour y arriver. Il dit, des fois, il ne faut pas être gentil dans la vie pour y arriver. Pour gagner, il faut savoir, hein, passer par des détours. Alors, je te donne ce conseil. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Et j'ai pas eu l'emploi, hein, vous comprenez. J'ai pas eu l'emploi. Mais dans ce monde, pour avoir une place, pour monter dans la société, et cet homme était, c'est vrai qu'il était monté aux yeux des hommes, il avait quand même une place aujourd'hui. Il fallait filouter. Il fallait prendre des détours. Il fallait faire l'anguille. Quand on lui disait de mentir, ça lui posait pas de problème. Tout ça pour avoir une place. Oui, je te donnerai tous ces royaumes si tu m'adores, si tu désobéis, si tu me préfères moi à Dieu, si tu te préfères toi à Dieu, parce qu'au final c'est notre intérêt qu'on cherche. Dans votre travail, dans votre vie, beaucoup de personnes vous proposeront des magouilles, comme on dit, des astuces. Qu'allez-vous faire pour plaire à Dieu, pour qu'il vous prenne avec lui? Il faut renoncer à ces choses, il faut renoncer à ça. Et des fois, en tant que chrétien, combien de chrétiens, je les entends, qui sont là et disent, oh, mais c'est rien, c'est quelque chose. Quelqu'un a installé des panneaux solaires et on lui avait montré que tant que l'EDF n'était pas passé, il y avait une technique pour faire tourner le compteur à l'envers. Un chrétien, et il me dit, voilà, bah, écoute, regarde, j'ai cette technique. Et il me le montre. Et il était tout fier. Dans mon cœur, j'étais triste. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, mais moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Il dit, parce que comment on peut être béni? Comment on peut avoir la faveur de Dieu, la grâce de Dieu? Et c'est par grâce qu'on est sauvé. Hein. Comment on peut avoir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, si on désobéit? Si déjà on ne se détourne pas de tout ce qui est magouille, astuce, tout ça. Jésus a été tenté là-dessus. Oui, l'orgueil de la place. Vous savez qu'il y a quatre orgueils à peu près, je pense qu'il y en a d'autres, mais je note quatre orgueils. J'aime bien des fois le répéter. L'orgueil de la place, l'orgueil de la race, quand on dit « moi, je suis français ». Et on est fier parce qu'on est français. Et les autres, c'est des moins rien. Français ou autre, hein. L'orgueil de face, moi je suis belle. Moi je suis jolie. Moi je suis beau, t'as vu? Mes lunettes. Pff. Et toute l'apparence, l'orgueil de la face. Et l'orgueil de la grâce. Moi, je suis de telle religion. Moi, j'ai le salut. Moi, j'ai ça. L'orgueil de... Moi, je suis sauvé. Lui, t'as vu ce païen? Comme tous ces pharisiens ou ces personnes qui, lorsqu'ils avaient Jésus à table, disaient s'ils savaient de quelle espèce était cette femme, hein, ils ne se laisseraient même pas toucher. Ouf, on n'a pas compris quand on a cet orgueil-là, non ? Ouais. La position, l'orgueil des yeux. Ah, quand les choses... Ah, lui, il a telle maison, telle chose. Comment il y est arrivé ? Oh, tel emploi, bon, même si c'est pas trop correct, c'est pas grave. Oui, cet orgueil-là. Être sauvé, ça passe par renoncer à ces choses. Comprendre que ça déplaît. Et si vous réalisez que dans votre vie, vous êtes encore là-dedans, repentez-vous. Repentez-vous. Que vous ne connaissiez pas Dieu ou que vous le connaissiez, repentez-vous. Ça s'appelle le péché. Et le péché, ça souille. Et ça prive d'aller au ciel. Ça prive du paradis. Le péché. Troisième chose, l'orgueil de la vie. Et on voit que Jésus a été tenté de sauter du haut du temple. Vous l'avez vu ? Le diable conduisit encore à Jérusalem, verset 9, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu », il n'arrête pas avec ça, hein, nous remettre en cause notre position d'enfant de Dieu. « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit « Tu donneras des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est dit, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Oh, l'orgueil de la vie, j'aimerais dire, celui qui croit que la vie lui appartient. Que la vie, même certains croient que la vie est un jeu. La vie, c'est un jeu, ça commence, ça finit, point. Ça s'arrête, après tout, la manière dont on la passe, c'est qu'un mauvais temps a passé, ou un bon temps, où il faut s'éclater avec tout. Pardonnez-moi cette expression, mais... où il faut s'amuser, profiter de la vie, soi-disant. Beaucoup de personnes profitent, soi-disant, de la vie et rentrent et ont un accident. Un jour, je conduisais, j'avais une voiture et je rentre le soir tard à 11h30 et il y avait des travaux qui avaient été faits, plus de marquage au sol et une voiture vient en face de moi. Il y avait un virage, moi je le prenais de l'intérieur. Une personne l'a pris de l'intérieur aussi en venant en face et elle s'est retrouvée face à moi. On s'est retrouvés en face et la personne allait vite. J'ai eu le temps, moi, de m'arrêter, mais elle non, elle a freiné. Et elle m'est rentrée dedans. Elle a cassé la voiture, tout l'avant. Et lorsque je suis sorti, je m'attendais, vu la voiture, l'aspect de la voiture, qui était assez récente, avec un moteur, enfin une vitesse qui roulait vite, je me suis attendu à voir un jeune. Et c'est une mamie que je vois sortir. Vous savez pas ce qu'elle me dit, parce que c'est pas grave qu'une mamie ait une voiture qui a un moteur qui conduise bien et tout. C'est pas, ça, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais elle me dit, je rentre de boîte de nuit. Je rentre, il était peut-être minuit. Je rentre de boîte de nuit et elle avait une copine à côté d'elle. Elle dit, on rentre. On a décidé de s'amuser ce soir. J'en croyais pas mes yeux. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Combien sont rentrés de boîte de nuit ? Une boîte où on s'en met plein les oreilles, on se casse, on devient sourd. Où ça sent, avant ça sentait la cigarette, je sais pas si ça sent toujours aujourd'hui avec les lois, mais en tout cas où on se fait pas du tout du bien. Je ne pense pas que ce soit un milieu où les enfants de Dieu aient leur place. C'est Monsieur de Dieu qui prêchait là, une fois. Quand Jésus est ressuscité, il a laissé le tombeau vide. Vous qui avez reçu la vie, qui êtes de mort passé à la vie, laissez votre tombeau vide. Je crois que la boîte de nuit, c'est bien une boîte, c'est bien un tombeau. Et il doit être vide, vide de nous en tout cas. Et je crois que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes sont partis pour s'amuser et en rentrant, ils ont eu un accident, ils sont morts. Et la vie qui devait être une vie d'éclate, une vie super, elle s'est raccourcie. Je ne pense pas que c'est ça que Dieu veuille pour nous. L'orgueil de la vie, on croit qu'on peut mener notre vie comme on veut. Et le diable a proposé à Jésus de sauter du haut d'un temple. Ça vous fait penser à quoi quand on saute dans le vide ? Un suicide ? Alors, si on réfléchit, etc., on peut dire, mais Jésus, lui, il aurait pu dire aux anges de le rattraper. Oui, mais nous, est-ce que le diable, il continue pas à dire aux gens, supprime-toi, Tu verras, ça sera fini, plus de soucis. Je crois pas que c'est Dieu qui dit à quelqu'un de se supprimer. Je crois pas que ce soit la solution que de se supprimer, bien au contraire. Je crois que c'est depuis le début jusqu'à la fin le diable qui pousse les gens à se suicider, qu'il pousse les gens à se supprimer. Parce qu'une fois qu'ils sont morts, eh bien c'est fini. La Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Chacun rend des comptes. Et dans jugement, toujours on dit jugement, c'est condamnation. Jugement, ça veut dire qu'on va passer devant Dieu et qu'il va y avoir délibération sur ce qu'on a fait de notre vie. Chacun rendra des comptes pour ce qu'il aura fait. C'est pas ça qui est marqué ? Chacun rendra des comptes pour soi-même. Il y en a qui auront été justifiés par le sang de Jésus, d'autres n'auront pas cru et n'auront pas aimé Jésus, donc ils seront condamnés. Mais tous à la base, on est condamnés. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a un juste ? Monsieur Galifot, est-ce que vous êtes juste par vous-même ? Certainement pas. Et la Bible dit qu'il n'y a pas même un juste. À la base, on est tous pareils. La seule différence qu'il peut y avoir devant Dieu, sur la manière de faire notre vie, c'est est-ce qu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur et comme notre Seigneur ? Ou est-ce qu'on n'a fait aucun cas ? Ou est-ce qu'on s'est laissé distraire ? L'orgueil de la vie. Je fais ce que je veux. Vous avez vu qu'à chaque fois, Satan met le doute sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que c'est ça qui est marqué ? Ou alors là, on voit qu'il utilise la parole de Dieu, qu'il enlève un passage pour justifier une action qui ne vient pas de Dieu. Ça ne fait pas peur au diable de citer quelques écritures. Il a d'ailleurs essayé à deux reprises. On l'a vu, les deux premières fois, il parle à Jésus, il le tente. Et Jésus lui répond par les Écritures. Il dit « Ah, ça ne marche pas. » Peut-être qu'en essayant par les Écritures, on va essayer. Et moi, je crois que l'une des plus grandes solutions du diable pour empêcher les hommes d'aimer vraiment Jésus, d'aimer au point d'obéir à sa parole, c'est la religion. Utiliser la parole de Dieu, certains passages, hors de leur contexte, modifiés ou tronqués, pour faire croire aux gens, par exemple, que Dieu est amour, et comme il est amour, on ira tous au paradis. Comme le dit cette chanson. Est-ce que c'est pas ça ? Là, on dit, ah, ou les bons principes, la philosophie, toutes ces choses, elles ne viennent pas de Dieu. Et je pense que ça, c'est un suicide spirituel. Il pousse les gens à croire qu'après, qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Une fois qu'ils ont adhéré à telle religion, à tel mouvement, assemblée de Dieu, ça y est, je suis des assemblées de Dieu de France, je suis sauvé. Je suis de telle dénomination, de telle assemblée. Je suis de tel peuple, c'est bon, je suis sauvé. Témoin de ceci, témoin de Jésus-Christ, ça suffit. Je me donne un titre et ça suffit. C'est pas ça. Qu'est-ce qui sauve ? C'est de connaître Jésus. Et quand on le connaît, on l'aime. On l'aime. Jésus demandait à poser cette question à Pierre et lui disait « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Ce qui importe au Seigneur et ce qu'il pourrait nous poser à chacun, m'aimes-tu ? Me connais-tu au point de m'aimer ? Me connais-tu ce que j'ai fait pour toi au point que tu es touché ? Parce que la Bible nous dit que l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Elle nous pousse à changer de vie, à renoncer au passé, tout ça. Est-ce qu'on n'a pas un peu d'orgueil dans la vie ? Le texte que Satan a utilisé, c'est Psaume 91. Vous voulez qu'on le lise un peu ? On va voir la différence. Hein ? Psaume 91, verset 11. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Ils te porteront sur les mêmes, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On le compare avec le texte dans Luc 4. Vous allez trouver par vous-même. Qu'est-ce que le diable a enlevé ? «
Le diable, verset 9, le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et dans Psaume, il est dit, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quelle est la différence? Quel est le passage qui a été enlevé? Je suis sourd, hein? Il faut parler un peu plus fort si vous l'avez. Comment? Non, même dedans, il manque un passage. Vous l'avez pas vu? Il donne, voilà, dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Quelles étaient les voies de Jésus, d'après vous? Dans Hébreux 10, versets 7 à 9, il nous est dit que les voies de Jésus, c'était de faire la volonté de son Père, et que la volonté de son Père. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que de sauter du haut du temple? Non. Dieu ne lui avait jamais demandé ça. Dieu ne lui avait jamais dit. Alors, il fait exprès d'enlever dans toutes tes voies, parce qu'il sait très bien que les voies de Jésus, elles sont pures. Et il dit oui, il a dit qu'il allait te garder. Il a dit ça, pareil. Si tu adhères à telle religion, à telle chose, tel verset, il dit ça. Mais on ne lit même plus la Bible aujourd'hui. On fait confiance à ce que le prédicateur, il dit. C'est comme si vous faisiez confiance à ce que je dis et que vous ne vérifiez pas si ce que je dis est conforme à la parole de Dieu. Je prends un texte, je le sors, je peux vous dire ce que je veux. Et au final, vous en allez, ah, c'était bien aujourd'hui. Mais vous ne vérifiez pas à la maison si ce qu'on vous a dit est vrai. C'est les habitants de Béret qui disaient, dont Paul dit, ils avaient quelque chose de spécial, ils sondaient les Écritures et quand on leur disait quelque chose, ils vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur avait dit était vrai. Et je pense que si tout le monde, sur toute la terre, faisait pareil, ils vérifiaient dans les Écritures si ce qu'on leur a appris était vrai, eh bien, ils ne pourraient pas être trompés. Et le diable, il ne pourrait pas les avoir. Là, le diable, il a tenté Jésus de ne plus faire ce qui est agréable à Dieu et de chercher à faire des choses pour se justifier. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es, et etc. Dans Jean 8, 29, Jésus dit qu'il fait tout ce qui est agréable. Il fait que ce qui est agréable à Dieu, à son Père. Et là, une fois, une petite fois, ne fais pas ce qui est agréable, c'est pas grave. C'est pas grave. Hier, une personne, alors que je discutais avec elle, une personne m'a dit, mais Jérémy, est-ce qu'il est vraiment dit dans la Bible de ne pas se marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui n'aime pas Dieu? Est-ce que c'est marqué dans la Bible? Je crois pas. Et puis j'ai dit, mais attends, c'est clair, je prends les textes, etc. Oui, mais moi on m'a dit que ta 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 ta. Et on avait beau prendre les textes, et ça ne suffisait pas. Je vous dis, on n'est pas à l'abri de se faire emporter à toutes sortes de doctrines si jamais on ne se conforme pas à la parole de Dieu. Et combien de personnes, lorsqu'ils ont voulu s'unir avec des gens qui ne partageaient pas la foi et la parole qu'ils avaient reçue, se sont retrouvés malheureux. Parce qu'il y en a un qui veut aller à l'église, l'autre qui veut aller jouer au foot ou aller au cinéma ou faire d'autres choses, fêter l'anniversaire, faire toutes sortes de choses. Il y en a un qui est dans les convoitises et il y en a un qui a compris ce qui était l'essentiel. Alors, je finirai par cette question. Est-ce qu'on va se laisser distraire par tout ce que le monde nous propose, par tout ce que le monde essaie de nous faire miroiter? Est-ce qu'on va chercher à assouvir notre confort, notre chair, prendre soin vraiment de notre chair plus que notre âme? Est-ce qu'on va chercher à assouvir le désir, la convoitise de nos yeux? Est-ce qu'on convoite les choses qu'on voit, les choses de notre prochain? Est-ce qu'on est plongé dans l'orgueil de la vie au point de croire que notre vie nous appartient et qu'on en fait ce qu'on veut et qu'adviendra ce qui pourra? Il faut que jeunesse se passe, toutes sortes de choses comme ça, des slogans inventés et qui mènent beaucoup de personnes au malheur. Ou est-ce qu'on va dire non, je ne me laisserai pas distraire? Et puisque la Bible dit que le premier des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, je vais déjà commencer à le connaître, à chercher à le connaître.
Et la Bible dit que celui qui cherche Dieu, Dieu se laisse trouver par lui. C'est-à-dire, tous ceux qui cherchent Dieu, ils se laissent trouver. On voit l'histoire de Corneille, un homme qui avait une religion au départ, qui, en tout cas, qui cherchait à plaire à Dieu. Il n'avait jamais entendu parler de Jésus, il n'avait jamais entendu parler du salut par grâce, gratuit, simplement par la foi, c'est-à-dire la confiance dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Oui, cette bonne nouvelle qui dit que Jésus a payé pour moi, pour toi. Je rappellerai cette simple histoire pour faire comprendre ce que Jésus a fait. Un jour, un homme se retrouve dans un grand tribunal. Deux amis, deux meilleurs amis. Enfants, ils avaient passé leur jeunesse et la vie les avait séparés. Et un jour, ils se retrouvent dans une même salle, un tribunal. Il y en a un qui est juge et un qui est accusé. Et le juge, il reconnaît son ami qui est accusé. Et il dit, oh là là, c'est mon meilleur ami. Le meilleur ami qui est accusé ne reconnaît pas que le juge est son ancien ami. Il s'était perdu de vue. Et le juge est devant un dilemme. C'est mon meilleur ami, je l'aime. Mais à la fois, je représente la justice. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le condamne? Ou est-ce que je mets de côté la justice et je lui fais grâce? Je ferme les yeux sur ce qu'il a fait. Et le juge a réfléchi, il a dit, voilà, monsieur, vous êtes condamné parce que ce que vous avez fait, ce qu'il avait fait, ça méritait des années de prison. Et s'il ne, et une forte amende, et s'il ne payait pas, des années de prison. Et il a dit, voilà, monsieur, vous êtes condamné. Voilà, la justice rend son verdict, vous êtes condamné. On ne peut pas justifier une telle erreur, vous êtes condamné à telle amende, et si vous ne payez pas, tant d'années de prison. Le juge, il sort, il a rendu son verdict, il sort, il enlève son vêtement, il pend son vêtement, et il va dans la salle, il rejoint son ami et lui dit, hey, tu me reconnais? Et là, celui qui est condamné, il dit, ah oui, c'est vrai, comment tu vas? Il se serre dans les bras, etc. Puis d'un coup, il réalise, mais c'est toi le juge, c'est toi qui m'as condamné. Et il dit, ne t'inquiète pas, viens manger avec moi. Il l'invite pour manger, et à table, il dit, voilà, je représentais la justice, je ne pouvais pas faire autrement que d'être juste et de te condamner à cette forte amende. Mais rien ne m'empêche maintenant de manifester mon amour pour toi et mon amitié. Prends, c'est le montant de ta dette. C'est exactement la position de Dieu. Il est là, il est juste, il est saint, il ne peut pas tolérer le péché. Il ne peut pas tolérer la faute chez un homme. Alors il est obligé de condamner l'homme. Le salaire du péché, c'est l'enfer, c'est la mort. Et tous les hommes sont pécheurs, donc tous, on va en enfer. Mais il nous aime d'un grand amour. Alors après avoir prononcé la condamnation, rien ne l'empêchait de manifester son amour. C'est exactement ce qu'il a fait. Il a payé pour nous, pour que nos péchés n'aient plus aucun pouvoir sur nous, mais que tout acte dont les ordonnances nous condamnent soit effacé. Et il a cloué cet acte à la croix. Nos péchés, toutes nos erreurs ont été clouées avec Jésus à la croix. Jésus a été fait péché pour nous et ça a été cloué. Mais Jésus n'est pas simplement mort, il est ressuscité et il est vivant pour communiquer la vie à celui qui le lui demande et qui crie à lui. Peut-être quelqu'un est malheureux, peut-être quelqu'un a besoin de guérison, de quelque chose de la part du Seigneur. C'est pareil, pas besoin d'aller chercher dans les philosophies, dans une certaine hygiène de vie avec plein de yoga, toutes sortes de choses, de la méditation. La solution est en Jésus, la solution est en Dieu, la solution est dans la parole de Dieu. Aime Jésus, aime la parole de Dieu, il en est digne. Pourquoi s'intéresser à Jésus? Jésus est-il digne de foi? Est-il digne de confiance? Est-ce que quelqu'un qui a donné sa vie pour vous, sans que vous l'aimiez d'abord, ne serait-il pas digne de confiance? Ne mérite-t-il pas un peu d'attention? Je pense. Mon père a fait ceci, il était malade. Il a dit, si ce qui est marqué c'est vrai, si ce que dit ta parole c'est vrai, tu me le prouves. Il y a eu un appel, ceux qui voulaient qu'on prie pour eux, qu'il se lève, il s'est levé, il était malade depuis 18 ans. Il s'est levé, il a été guéri instantanément. Moi-même, j'avais l'hépatite B, j'ai crié au Seigneur, j'ai été guéri instantanément. Toutes sortes de choses, je ne veux pas prendre plus de temps, je veux m'arrêter. Toutes sortes de choses que le Seigneur a fait dans ma vie. Parce qu'on lui a fait confiance. On n'a pas plus de capacité. On n'a pas une place supérieure. On n'a pas de l'argent à donner. Pas besoin de tout ça avec Dieu. Votre cœur, votre confiance, votre amour. Et ça suffit au Seigneur. Amen. On courbe nos fronts. Seigneur Jésus, oui, tu as dit que le plus important, c'est de t'aimer au point de te servir toi seul, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. C'était le premier, le plus important des commandements. En plus, si nous commençons par là, il y a deuxième commandement qui dit de nous aimer les uns les autres, d'aimer son prochain comme soi-même. Si toute la terre t'aimait, le monde entier serait dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Plus de guerre, plus de douleur, plus de maladie, j'en suis sûr. Et puisque le monde n'en veut pas, tu le proposes à celui qui le voudra, à celui qui entendra cette parole, celui qui dira, moi, je ne veux plus me laisser distraire, mais je veux la vie éternelle. Je veux ce qu'il y a de plus important. Je veux ce que tu donnes gratuitement. Merci mon Dieu, parce que tout ça, oui, c'est gratuit et accessible à tous. Tu as dit que même un enfant pourrait le comprendre et le recevoir. Seigneur, si quelqu'un t'appelle cet après-midi, si quelqu'un est dans les moments difficiles, dans un désert, sous une tentation, aide-le à résister, Seigneur, parce qu'il se sera soumis à toi, il sera capable de résister au diable. Et comme ça a été pour toi, le diable fuira loin de lui et il sera réellement libre, parce que ta parole veut que nous soyons libres et elle nous le dit. Et c'est le Fils qui nous a franchis. Merci Jésus pour ce partage. Pardon pour mes erreurs, pardon pour ma faiblesse, mais je crois que ton esprit est là et qu'il peut toucher au-delà de toute faiblesse. Amen.